Radio Kapi.
Une accalmie observée depuis bientôt 3 mois et le retour de certains déplacés des territoires d'Irumu et de Djougou, résultat d'un bon partenariat entre les FRDC et les casques bleus de la MONUSCO que salue le gouverneur de l'Ituri. Et puis, les femmes rurales du Maniema déplorent l'absence des routes de dessertes agricoles pour faciliter l'évacuation de leurs produits des champs. Elles ont fait savoir à l'occasion de la célébration ce 15 octobre de la Journée mondiale de la femme rurale. Enfin, notre invité dans cette édition du journal est le professeur Alphonse Choukourou Batachoka. Il est directeur général de l'Institut supérieur de développement rural ISDER Ouvira. Il nous parlera du rôle des radios communautaires et des organisations de la société civile dans la promotion de la gouvernance locale et de la décentralisation au sud du Sud Kivu. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le gouverneur de la province de l'Ituri salue le partenariat entre les FRDC et les casquets bleus de la MONUSCO sur le terrain. Partenariat ayant entraîné une certaine accalmie depuis bientôt 3 mois, ainsi que le retour de certains déplacés dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachamala dit ce vendredi à Bounia au cours d'un point de presse. Selon lui, les efforts fournis par les deux forces permettent de sécuriser les populations dans leur milieu de retour et aussi permet l'espoir d'une paix durable. Il ajoute que le gouvernement provincial prépare dans les prochains jours un programme d'accompagnement de ces déplacés dans leur milieu d'origine. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama est au micro de Marcel Kizaviamungu.
Nous sommes avec la MONUSCO partout. Vous savez que nous sommes à Boga et à Djabi là-bas. Nous menons des opérations ensemble. Sur au Mont Oyo, nous avons mené des opérations ensemble. Nous avons chassé les ADF de là. Aujourd'hui même sur la RN4, Commanda, Loloa et tout. Nous sommes en train de préparer les opérations pour ça. À Djougou, vous savez que tous les sites là-bas, nous sommes ensemble avec la MONUSCO, nous protégeons les populations. Et aujourd'hui, là, nous allons encore nous voir comment aussi protéger les axes Iga Barrière, Mungwalu et les environs. Donc, nous sommes vraiment en parfaite entente avec la MONUSCO, nous travaillons ensemble pour que cette population soit sécurisée.
Pendant ce temps, Nord Kivu, la force syndicale nationale Fosinat s'insurge contre les interpellations et arrestations arbitraires de certains enseignants par les services de renseignement en province. Elle parle particulièrement du cas d'au moins 5 enseignants de la ville de Goma, dont le préfet de l'Institut de Goma, Instigo, et d'un enseignant de l'Institut Nyabiondo en territoire de Masisi, arrêté récemment. Selon le président provincial de ce syndicat des enseignants, ces derniers ont été arrêtés sans respect de dignité par des personnes inconnues, se faisant passer pour agent de l'ANER. Balacha Mamvou, innocent, au micro de Denise Loukesso.
Il est inconcevable de voir que le chef d'établissement soit arrêté en cascade, sans respect des dignités, sans respect des grades, par des personnes inconnues. Tout le monde se fait passer pour un agent de l'ANER. Nous ne savons plus à qui faire confiance. À l'EPST, nous avons des services chargés de contentieux. Il serait mieux que lorsque vous voulez interpeller X ou Y, de s'adresser quand même à son autorité hiérarchique, mais pas aller ramasser les chefs d'établissement dans des écoles comme si vous ramassiez des cacahuètes. Et chose grave dans tout ça, il n'y a rien de légal. Tout ce que vous cherchez, ce n'est que l'argent. Ceci s'étend dans le territoire de Masisi. Il y a des arrestations arbitraires dans des écoles par des inconnus, nous ne savons pas. Un agent de l'ANER, il n'a même pas de carte. Donc vous trouvez des gens qui viennent sans même mandat, sans même ordre de mission. C'est ainsi que nous demandons à l'ANER un peu de minimum du respect de l'administration. Pourquoi venir seulement récupérer les gens en créant des paniques?
Un des responsables de l'ANER contacté déclare que pour le cas du préfet de l'Instigo, c'est sur ordre de la direction que ce chef d'établissement a été interpellé et auditionné sans plus. Mais pour les autres cas, il dit ne pas être au courant et promet de vérifier. En justice, l'épouse de Jean-Marc Kabound, Mikombe Kasongo, écope de 6 mois de servitude pénale pour imputation dommageable et injure publique. Le tribunal de paix de Kinshasa Matete a rendu son verdict hier vendredi à l'affaire qui opposait l'épouse de l'ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale au vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba. Le tribunal de paix de Kinshasa Matete a jugé établi ces deux préventions et non établi celle de fausse détresse ou trompeuse et dénonciation calomnieuse. Kombe est également condamné à payer à Gérard Moulumba la somme de 5 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Restons à Kinshasa où les occupants des habitations construites dans le cimetière de Kintsuka dans la commune de Mongafula ont moins d'une semaine pour quitter définitivement ce site. Le gouverneur de la ville qui s'y est rendu ce jeudi s'est dit choqué de constater l'ampleur de la profanation de ces lieux où les morts étaient censés reposer en paix. La majorité des tombes ont été détruites pour laisser place aux maisonnettes en briques ou en tôle. Et ce travail de profanation se poursuit. Le gouverneur a annoncé pour mercredi prochain la démolition de toutes ces constructions après un travail de délimitation du site par des experts. Suivez Gentil Ngobila dans cet extrait choisi par Babel Pongo Massimango.
Ce cimetière est régulièrement fermé depuis 2015 par mon prédécesseur. On ne peut pas encore construire dans ce cimetière parce qu'il n'est pas encore désaffecté par l'autorité urbaine. Donc c'est un cimetière qui est tout simplement fermé au public. Il faudrait attendre minimum 50 ans que la dernière personne ait été enterrée pour désaffecter un cimetière. Tout celui qui a construit sur ces sites, ces gens ont pollué cet espace et profané les tombes. Le quinoa a atteint des niveaux exponentiels d'inconscience que je n'arrive même pas à comprendre. Nous sommes venus ici pour dire à toutes ces personnes que nous leur donnons une semaine. Mercredi prochain, nous reviendrons ici avec des engins pour passer à la démolition de toutes ces maisons. La loi nous permet de démolir sur des sites non édificandis et surtout sur les cimetières. Cette démolition va se faire sans indemnité, comme le prévoit la loi.
Notez que plusieurs autres démolitions d'habitations ont déjà eu lieu sur ces sites sans que cela ne décourage des vendeurs, des nouveaux acheteurs, bref, les profanateurs. Et puis, les occupants de maisons de l'État situées dans le site de Socidaire, société d'exploitation sidérurgique dans la commune de Maluku, inconnue à ce jour de l'administration, sont priés de se présenter de toute urgence au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, pour régulariser leur situation. Quiconque qui se soustrairait à cet appel obligatoire s'exposerait non seulement au délogement, mais également à des poursuites judiciaires. Dans un communiqué signé par le ministre d'État, Pius Mabilou, dont une copie est parvenue à Radio Capi, ceci rentre dans le cadre de l'opération de récupération de maisons de l'État. En effet, le ministère de l'Urbanisme et Habitat rappelle que les maisons de Socidaire sont, depuis 1989, tombées sous sa gestion et son administration. Autre nouvelle, mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation dans le Congo profond, plus précisément dans l'espace Grand Bandundu, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, s'est rendu à Vanga, dans la province du Kwilu, à 500 km à l'est de Kinshasa. Sur place, il a visité les usines de production d'huile de palme brute, huile raffinée, huile palmiste et des biodiesel de la société Krishnovic, et dont les travaux d'installation sont finis à 95% grâce à une subvention du gouvernement congolais et du financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Les détails avec Pierrot et la Mégie.
Ces usines visitées ont une capacité de production de 9000 tonnes d'huile par an avec 3000 emplois qui seront créés, a indiqué Julien Paluku, tout en instruisant le Fonds de promotion de l'industrie FPI de continuer à appuyer cet investisseur jusqu'au démarrage effectif de ses activités, car cette belle initiative doit être dupliquée à travers d'autres provinces. À cette occasion, le ministre de l'industrie a jeté des fleurs à Hyacinthe Kabamba, promoteur de la société Krishnovic, pour cette réalisation qui va contribuer à la réduction de la facture des importations qui coûte cher à la République. Signalons que le ministre de l'Industrie a été accompagné du directeur général adjoint du FPI et d'une équipe de l'Agence nationale des services d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, le monde célèbre ce samedi 15 octobre 2022 la journée de la femme rurale. Au Maniema, les femmes rurales déplorent l'absence des routes de desserte agricole pour faciliter l'évacuation de leurs produits de champs. Elles affirment manquer aussi des semences améliorées pour leur production. Florence Kizalunga a rencontré l'une d'elles. Voici son reportage.
Mère de 5 enfants, Daphrose Bitungwa s'est dit être fière de son métier et s'est promise de l'exercer jusqu'à son dernier souffle. Ce travail de la terre lui permet de soutenir sa famille.
Aujourd'hui, je suis très contente de voir que le monde a consacré une journée pour nous, la femme rurale. C'est-à-dire que le monde reconnaît le travail travail de la femme rurale. Et moi, en tant que femme rurale, je suis très fière de ce travail que je fais pour nourrir toute la communauté et pour diminuer la famine et pour scolariser mes enfants, vêtir mes enfants. Je suis très contente de cette journée d'aujourd'hui et je remercie vraiment ceux qui ont pensé à offrir à la femme la journée de la femme rurale. En tout cas, je n'ai pas moins de 20 ans dans ce travail. Je suis en train de faire les champs. Et je trouve que c'est ça ma vie et je suis fière de cette vie-là parce qu'elle m'aide à évoluer, elle m'aide, parce que j'ai des enfants, déjà les universitaires qui terminent cette année, 3 enfants qui font la licence. Je suis fière de ça et donc je fais ça de mon travail de champ. Je suis fière de ça et je compte continuer jusqu'au dernier soupir.
Face aux difficultés rencontrées, Dafos Bitungwa invite d'autres femmes engagées dans l'agriculture de ne pas baisser ni même désespérer. Seul le courage les amènera loin dans leur engagement. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, il se tiendra à Kisangani du 27 au 30 octobre prochain les travaux du Forum sur l'espace Grand Oriental. Environ 350 participants issus de l'ancienne province orientale vont réfléchir sur un certain nombre de thèmes, notamment la paix, la sécurité, la coopération interprovinciale et le développement socio-économique. D'autres détails avec vous, Jacques Moukonkolé.
Les travaux préparatoires de ce forum ont été présidés par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Otembitapa. Au terme de ces assises, 4 sous-commissions et un service ont été constitués. Il s'agit des sous-commissions de la mobilisation des fonds, la communication, la logistique, les relations publiques ainsi que la trésorerie. Par rapport au thème de la paix, il sera examiné en profondeur les questions relatives aux groupes armés, à l'état de siège, aux conflits, questions humanitaires ainsi qu'à la justice et les droits humains. Concernant la coopération interprovinciale et le développement, les questions axées sur les infrastructures de base, l'environnement, les ressources naturelles, la culture et la refondation d'une conscience collective seront débattues. Il en est de même de bien d'autres sujets tels que la participation des jeunes et femmes dans la bonne gouvernance et le leadership politique de l'espace Grand Oriental. L'objectif étant notamment de réunir les filles et fils de cette entité autour des idéaux susceptibles de conduire au bien-être des populations de ce grand espace vital. Notons que le budget global de ce forum est estimé à environ 250 000 dollars américains. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En international, au Burkina Faso, les forces vives ont adopté une nouvelle charte de la transition et désigné le capitaine Ibrahim Traoré chef de l'État. Âgé de 34 ans, ce responsable militaire était à l'origine du coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba. Il y a tout juste 2 semaines, il avait alors assuré qu'il ne resterait pas longtemps, se borna à assurer les affaires courantes. Mais depuis l'ouverture des assises vendredi matin, son nom semblait faire l'unanimité. Et puis au Cameroun, 3 ans après la tenue du Grand Dialogue National, la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a gagné en complexité. L'octroi du statut spécial à ces 2 régions anglophones est loin de faire l'unanimité sur son efficacité à ramener la paix dans cette partie du pays où sévissent depuis 6 ans des groupes armés sécessionnistes.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le professeur Alphonse Choukourou Batachoka, directeur général de l'Institut supérieur de développement rural, ISDER Ouvira. Il nous parle du rôle des radios communautaires et des organisations de la société civile dans la promotion de la gouvernance locale et de la décentralisation au sud du Sud Kivu. Le professeur Alphonse Choukourou Batachoka s'entretient ici avec Fiston Ngoma. Suivez.
Alphonse Batachoka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'ISDR Ouvira. Vous venez de prendre part à ce dialogue provincial. Selon vous, quel rôle doivent jouer les médias et la société civile dans la gouvernance locale?
Partant même de la définition de la gouvernance locale, qui insiste sur les partenariats ou la coordination entre les différents acteurs dans l'essence de la gestion de la chose publique, je pense que les médias et les organisations de la société civile doivent d'abord jouer le rôle de l'information, donc recueillir, puiser l'information nécessaire à la source et par la suite transmettre cette information au niveau de la population dans le sens de former l'opinion publique et d'informer les différents acteurs publics sur les programmes, sur les actions et sur les réalisations des acteurs publics afin que tout le monde puisse avoir et savoir ce qui se fait dans le cadre de la gestion publique. Ils doivent aussi jouer le rôle de sensibilisation pour amener effectivement les différents acteurs à comprendre ce qui se fait et ce qui doit être fait, ce qui est prévu. Mais au-delà de ça, ils doivent aussi jouer le rôle de dénonciation, dénoncer les abus, dénoncer ce qui ne marche pas au niveau de la gestion publique pour effectivement amener à ce qu'il y ait une coordination de l'action au niveau de la gestion de l'État et que la finalité de la gestion puisse être une bonne gouvernance de la cité, quoi. Alors, la société civile devrait se mobiliser, et se mettre à l'œuvre pour suivre comme un organe de suivi, un organe d'appui, un organe d'accompagnement pour amener ou chercher les moyens de faire pression et contraindre l'autorité politique à réaliser ces tâches telles que c'est inscrit dans les prévisions ou tel que c'est inscrit dans le programme des sociétés qui est pris conjointement entre les différents organes qui interviennent au niveau de la gestion de l'État, quoi.
Alors après échange avec le participant, quels sont les défis qui restent encore à relever pour assainir le milieu médiatique et celui de la société civile ici dans Uvira?
Le constat qui est fait, c'est qu'il y a des démultiplications des médias et beaucoup de médias sont non viables. Et des fois, c'est des médias dont on ne connaît pas, ils fonctionnent où et ils fonctionnent comment, où est-ce qu'ils œuvrent. Alors, l'autorité des régulations devrait veiller à ce que les médias puissent être enregistrés au niveau de l'État et que tous les médias puissent être recensés et connaître leurs objectifs, leurs missions, et ils agissent pour le compte de quelle autorité politique, de quel acteur politique, de quelle organisation, afin de bien savoir, de bien cerner les missions qui sont assignées à ces médias. Sinon, si on continue avec la prolifération, la démultiplication des médias incontrôlés, effectivement, la dérision risque d'être renforcée et la désinformation ou la publication des informations non fiables risque d'être à la ligne. À cela, l'autorité publique devrait insister sur la professionnalisation de ces médias, ne pas accepter à ce que les médias qui ne répondent pas aux critères reconnus par la loi devraient, dans la mairie d'Ouvira, si on peut prendre cet exemple comme ça. Alors, les organisations de la société civile doivent aussi connaître un certain assainissement, parce qu'on ne comprend plus, c'est des organisations qui commencent à avoir autant d'obédience. Les sociétés civiles acquises à la cause d'un politicien, des organisations acquises à la cause des partis politiques, des organisations acquises à la cause des personnes influentes, des politiciens influents. Alors, à ce niveau, il faudrait que, au niveau de la coordination, que ce soit nationale que provinciale, qu'une séance de validation des organisations qui doivent œuvrer dans cette société civile et un peu faire des enquêtes pour essayer d'avoir les statuts qui valident leurs actions au niveau des différentes entités. À défaut, cette démultiplication affaiblit aussi les organisations de la société civile dans leur rôle de contrepoids, dans leur rôle de faire pression pour que les autorités publiques gèrent mieux la chose publique.
Professeur Alphonse, quelles sont vos recommandations à l'endroit des autorités locales sur leur manière de travailler, leur façon de travailler avec les médias et les sociétés civiles?
Je voudrais recommander à ces autorités de ne pas rester enfermées, mais plutôt d'échanger les informations avec les différentes structures de la société civile, les structures privées, pour faire connaître ce qu'ils font. Parce que lorsqu'ils restent enfermés, inaccessibles, cela permet à ce que les gens racontent des informations dont ils ne connaissent pas la véracité des fonds. Et je voudrais recommander ici que les autorités puissent créer des espaces d'échange entre leurs cellules de communication, les organisations de la société civile, le milieu académique et les médias, pour essayer de discuter, de faire des évaluations en termes de redevabilité dans le sens de l'action publique.
Merci beaucoup, professeur Alphonse.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Mimi Kindou, coordonnée par Pierrot et Lameji, sous la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci pour votre particulière attention.